your mother.
De joyeux bandits sachant rire et battre.
Radio Bandit.
Mangeant comme quatre.
Radio Bandit. Avec Ronde Courte. Conciliabule.
Onde Courte en direct du Festival des Narrations, le Festival Bandit à Toulouse pour cette première édition qui s'achève tranquillement et en beauté, j'ai envie de dire, avec encore beaucoup de monde qui découvre les stands. Il y a eu des ateliers tout l'après-midi, en ce moment il y a un petit concert à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et il y aura surtout une tombola en clôture. Et ça, nous on aime ça les tombolas. J'accueille pour ce dernier conciliabule autour du plateau quatre personnes qui vont se présenter.
Alors moi c'est Manon, je m'occupe du label Hidden Bear Records et je suis ici pour accueillir Yann de Manufacture Errata de Lyon et puis Félix et Sam de AC1058 qui viennent de Paris. Et voilà, vous allez peut-être vous présenter un peu. Donc vous avez chacun une structure au sein de laquelle vous éditez de la musique, des cassettes, mais aussi des fanzines. C'est un peu pour ça que je voulais vous rassembler, parce qu'il y a quand même une pratique commune. Et je voulais savoir comment vous définissez vos structures respectives. Je sais que c'est jamais évident, maison d'édition, collectif artistique, label. Voilà, si vous pouvez, à tour de rôle, présenter un peu votre structure.
Bonjour, moi je suis Yann de Manufacture Errata. Au départ, c'était un duo que j'avais avec une copine, c'est-à-dire ma copine.
Ouais.
Mais on s'est séparés, du coup le duo c'est devenu juste moi. J'ai gardé le même nom et j'ai continué à faire des éditions tout seul. Du coup, ça a quand même, la notion de collectif pour mon label est un peu exagérée, je pense. Même si mes tendances schizophrènes pourraient quand même suffire à expliquer tout ça, mais. Ouais, voilà.
Nous, pour AC1058, on s'est vraiment formé à partir d'une sorte d'amitié. On était quatre, deux meilleurs amis et moi et ma copine. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est vu. On a beaucoup traîné ensemble et à un moment, on s'est senti de faire ensemble, de monter en dire une collectif parce qu'on était assez pluridisciplinaire. Ma copine avait fait beaucoup de dessins, de l'illustration, du design, Sam il est beaucoup plus dans le graphisme et puis moi et Paul on était en études littéraires, du coup voilà on écrivait beaucoup et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'en se mettant tous ensemble on pourrait peut-être faire quelque chose, donc c'est plus dans une idée de collectif, de complémentarité.
Ouais, ça marche.
Et à ce dit du coup c'est aussi, enfin ça a été le moyen de réunir toutes nos pratiques et c'est très difficile de se définir en fait, ça fait déjà genre, ça fait à peu près 2 ans maintenant qu'on existe. Et il y a des nouveaux membres qui nous ont rejoints. Et aujourd'hui, on est entre une plateforme de distribution de nos propres projets.
Ouais.
Et on essaye juste de trouver un moyen d'exprimer ce qu'on fait, quoi.
Oui, en fait, c'est aussi assez excitant de se dire qu'on écrit, qu'on dessine, qu'on met en page avec l'idée que ça va paraître, que ça va être publié. Et du coup, ça donne vraiment envie, ça donne beaucoup plus de motivation en tout cas. Donc c'est pour cette notion collective. Et puis le travail en équipe aussi, nous on aime beaucoup ça, se réunir pour discuter, pour prendre du temps pour avancer.
Ouais. Effectivement, vos projets sont assez complets. Ce que j'aime bien dans vos projets, c'est que notamment les visuels sont vraiment travaillés. Donc ça, oui, c'est un choix défini dès le départ. Le graphisme, c'est pensé... C'est pensé en amont, par exemple, pour une cassette. Vous liez les deux choses.
C'est complètement. En fait, je pense que de par ma présence et du coup maintenant celle de Laura aussi, donc ma copine qui est aussi du coup graphiste. C'est vrai que c'est super important pour nous. En fait, c'est déjà le moyen. Enfin, c'est un peu le rêve du graphiste de pouvoir avoir carte blanche sur tout ce qu'il fait en fait. Et du coup, l'objet pour nous est toujours super important. Et que ce soit un objet dématérialisé ou matérialisé, c'est-à-dire même un site web ou même une vidéo, c'est toujours super important en fait. Et parfois, on a même des idées où on a juste l'idée de l'objet et après vient le projet et ça dépend en fait. Mais toutes les étapes sont super importantes pour nous.
D'accord.
Oui. Dans l'investissement, il y a un rapport contenant-contenu qui est assez équilibré finalement.
Et Yann, pour toi c'est pareil, le visuel est important?
Sauf que moi, non, c'est pas du tout. Enfin, je fais pas du tout les choses de la même manière en fait. Notamment dans une collection de cassettes que j'ai montée il y a 3 ans, Je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de diffuser les musiques sur lesquelles j'ai flashé. Mais par contre, je sais que dans la durée, ça va me saouler de faire un graphisme différent et tout, de travailler sur le truc. Alors, ce que je me suis dit, c'est que, en fait, toute mon esthétique et toute ma politique autour du label et de ma maison d'édition de livres, elle est axée sur l'idée qu'il faut que ça soit le plus facilement faisable et reproductible. Du coup, j'essaye de toujours faire des trucs qui vont se faire vite, en fait. Enfin, je vais essayer d'entretenir un rapport entre la rapidité, la qualité, la quantité qui soit en équation avec ce que je peux produire techniquement. Et en savoir, cette collection de cassettes en particulier, c'est parce que je parle de ça, parce que c'est le projet qui dure depuis le plus longtemps. Je demande au groupe de me donner deux pistes de 10 minutes, deux pistes wave de 10 minutes, deux pistes de musique de 10 minutes, de me donner une photo et une petite fiche à remplir avec les crédits, quoi, nom, titre et tout ça. Moi, après, à partir de ça, je prends la photo, je la plie en quatre, ça fait je la plie en deux, ça fait la pochette de la cassette.
Ouais.
Et en gros, j'ai aucun regard, je dis pas ouais non, elle est nulle ta photo, ou genre elle va pas. C'est juste qu'ils me donnent ce qu'ils ont, et puis en final, bizarrement, ça crée un tout cohérent, alors que ça l'est pas du tout à la base, parce que juste je rajoute le logo sur la tranche, et puis ça suffit en fait à faire un truc qui a l'air, qui est cohérent, alors que le graphisme n'est pas du tout pensé. Du tout en amont, quoi, pour le coup.
Ouais. Mais il y a quand même toujours une espèce d'emballage. Je repense à... J'ai vu que sur le Bandcamp, tu avais vendu des Walkman, par exemple, d'occasion.
Ouais,
et c'était quand même très emballé. Il y avait un petit fanzine avec. Il y avait des choses, des textes faits. Il y avait un petit ensemble qui accompagnait le simple objet d'occasion.
Ouais, bien sûr. Bah, après, voilà. Je veux dire, quand tu commences à faire un... Là, c'est un objet... c'est pas une série, donc du coup il y avait un travail. J'ai demandé à un pote de faire un dessin pour un design que j'avais fait de boîte, et je vendais des Walkman d'occasion qui marchaient. C'était pour relancer l'industrie de la cassette,
parce que
les gens avaient jamais de trucs pour lire des cassettes, du coup c'était, vous avez plus d'excuses, quoi, que j'en vendais aussi.
C'est une bonne idée. Ouais, on essaye de faire pareil nous aussi chez Hidden Bay, mais on n'a pas pris le temps de faire un emballage et un fanzine avec. Je tournais vers toi, Yann. T'as sorti des choses assez pop, par exemple Sierra Manhattan.
Non, j'ai pas sorti Sierra Manhattan.
Ah d'accord, c'est
T'as vu ça sur mon stand ?
J'ai vu ça sur ton stand.
Ouais, c'était de la distro.
D'accord.
Mais par contre, j'ai sorti le projet solo de Antoine, qui est le leader du groupe Sierra Manhattan, qui est un pote à moi aussi, avec qui je fais des mix cassettes régulièrement sous le nom de Tournicotape. Petite publicité. on sera sans doute en concert le 26 juillet à Rabastins pour Chasser Croisé.
Alors
en mix cassette pour la fin de soirée, Patrin de Toulouse. C'était le plus beau passage. Et son projet solo, Bravo Tunki, qui a explosé les ventes et les écoutes de mon SoundCloud. merci Internet, merci les auditeurs, merci Antoine.
Je voulais juste dire, j'ai l'impression que tu sors aussi de la musique ambiante. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de styles différents.
Ouais.
Tu t'autorises
Je m'autorise,
une palette sonore très large.
C'est un peu ma vie, tu vois, en fait. Là. Alors du coup, si je commence à me foutre des barrières un peu trop strictes, ça serait horrible, quoi, en fait. Moi, personnellement, je suis tout seul dans ce label, du coup. Du coup, j'ai que moi, quoi. Du coup, des fois, je pense que je me plante en termes esthétiques. Enfin, des fois, je pense qu'il y a des trucs qui sont peut-être pas très clairs et pas très cohérents, mais bon...
Ça a son charme aussi. Hein.
C'est vrai que c'est un peu... Du coup, ça fait tourner un peu la production autour de ma personne. Et voilà, c'est juste comme ça.
Et t'as pas envie d'avoir un regard extérieur pour te dire si ça va pas ou quelque chose comme ça?
En fait, pour plein de raisons, j'aimerais bien avoir quelqu'un à mes côtés pour peut-être avoir un regard plus précis et aussi techniquement pour pouvoir envoyer des trucs un peu plus lourds et tout. Mais parce que moi, je fais des très petites éditions de cassettes, 25 exemplaires ou 30 à peu près, quoi. Sauf en collaboration où je fais des fois des gros trucs, mais du coup, c'est des collaborations. Mais ouais, le regard extérieur, bah oui, mais de toute façon je l'ai, le regard extérieur. Vu que quand la cassette elle sort, on en parle avec des gens et tout.
Et vous, alors le tirage, c'est à 7,58, c'est...
Nous, c'est beaucoup moins que 25.
C'est ultra limité.
Mais bon, après, c'est aussi une question de, enfin, on sait que dans tous les cas, si on en tire trop, après, on va juste pas les vendre. Donc,
d'accord.
C'est surtout aussi que ça fait pas non plus énormément de temps qu'on sort des cassettes. Ouais. On a acheté tout le matos pour la musique il y a 6 mois. Donc,
c'est quoi votre matos ?
Tascam.
Pour copier ?
Ouais, pour copier. Ouais. On n'a même pas de duplicateur, tu vois. Donc, on voulait vraiment maîtriser la chaîne de bout en bout. Donc bon, on fait pas encore nos propres cassettes, je pense que ça c'est un peu dur.
Moulé de plastique.
Exactement. J'ai pas encore acheté ça.
On pourrait faire ça, mais sortir des moules de cassettes.
Ouais. On peut faire un partenariat.
Il y a un collectif qui se met en place là.
Mais non, du coup, on a juste des enregistreurs analogiques. Et voilà, après on fait des tirages, ça dépend. On fait des tirages entre 10 et 15 pour l'instant.
D'accord.
Peut-être qu'on va augmenter, hein, j'en sais rien.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces cassettes ? Qu'est-ce que c'est la musique ou les sons que vous avez sortis ?
Bah, je vais laisser Sam en parler parce que c'est un peu le directeur du pôle musical.
Non, il y a Paul aussi, mais il n'est pas là. Mais pour l'instant, on n'a pas sorti beaucoup de projets. On a, en fait, c'est avec Paul, du coup, un des autres membres d'ACDI, du coup, où on a commencé à faire de la musique ensemble, en fait. Donc on a commencé avec un des premiers projets qu'on a sorti, c'était Mariage Républicain. Déjà du coup, il faut savoir que dans notre début de label, pour l'instant, il n'y a que nous. Parce qu'on n'a pas encore pu trouver... on est en contact déjà avec des artistes, mais on n'a pas encore pu trouver... On aimerait beaucoup éditer d'autres artistes que nous. Mais du coup, pour l'instant, on est les seuls. On a commencé... c'était juste avec un ordi, en fait. On a juste commencé avec GarageBand, je crois, et à faire notre premier projet, du coup, qui s'appelle Les Eaux Froides. Mm-hmm. Donc, d'ailleurs, Yann a sorti aussi un projet qui s'appelle comme ça, donc c'était une belle coïncidence. Et du coup, après, on a continué. On a voulu pousser un peu plus. En fait, on s'intéresse... on a toujours aimé la musique, et on adore ça, et on a commencé à essayer de... pas de se professionnaliser, mais déjà on sait pas jouer d'instrument de base, donc c'est sûr que c'était quand même un peu difficile au début, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas d'oreille musicale ou quoi que ce soit, mais c'est juste on sait pas jouer de, tu vois, je sais pas jouer de guitare, j'aimerais bien, mais
ouais, c'est pour ça qu'on fait des cassettes, parce qu'on sait rien à faire,
exactement,
qu'est-ce qu'on fout là, si on savait faire des trucs on serait malade.
Non, c'est pour ça,
puis même on a tellement poussé le concept qu'on a fait une cassette de musique brute sans instrument, à taper un peu partout sur des trucs de manière totalement improvisée. On a mélangé avec du field recording, ouais. Donc on a appelé ça Brûle, et vraiment on n'a jamais eu trop de retours, par exemple sur ce projet, donc on sait vraiment pas ce que ça vaut.
Je l'ai acheté celle-là ou pas?
Ouais, tu l'as acheté.
Ah bah je vous en donnerai un retour.
C'est pratique. Un retour, ouais.
Quand j'aurai bien écouté.
Il va être fracassant ce retour, je le sens. Il va mettre fin à la carrière de Brûle.
Bon, non, si je l'ai acheté, ça ne créerait plus. Le peu que j'ai écouté, c'était cool. Hein.
Ouais, c'est tant mieux.
Ouais, j'ai l'impression qu'ACDI 58, c'est vraiment un espace de recherche artistique.
Ouais, complètement.
C'est assez libre.
Ouais, c'est un espace d'expérimentation. Voilà. Parce que, à la base, on s'est juste dit qu'on voulait se faire une plateforme en ligne pour que des gens puissent avoir accès plus facilement à ce qu'on faisait. Et à la base, c'était vraiment ça. On faisait des choses, on s'est dit, ouais, c'est chiant de donner à la main, et puis pour les envois et tout, une galère, pour l'argent aussi. Donc on s'est dit... Ok, on fait un site, et comme ça les gens ils peuvent acheter, ils peuvent voir ce qu'on fait. Et au début c'est parti de ça, juste l'envie de faciliter et de montrer ce qu'on faisait à nos potes. Puis après le cercle s'agrandit toujours plus, ça crée des réseaux, et puis bon, on se retrouve ici.
Ouais. Fais gaffe parce qu'après les gens deviennent tes potes.
Ouais.
C'est le plus dur à gérer.
Ouais.
Et donc dans l'idée, s'il y a un groupe de rock par exemple qui vous propose, qui vous envoie une démo, qu'est-ce que vous diriez ?
On en parlait hier parce que du coup on écoutait le concert de Fiasco hier. Et on a pas mal kiffé. On s'était dit, enfin moi ça m'a grave donné envie de faire ce genre de son. Tu vois, et ouais. Même si je sais pas jouer de guitare, tu vois, genre, je m'en fous. Genre,
Vas-y. En fait, je pense que dans le rock, on aime une certaine branche qui correspond un peu à l'identité d'ACDI. Donc l'avant Fiasco, c'était très cold wave, tout ce qui est assez post-punk. Voilà.
Shoegaze aussi.
Ouais, shoegaze. Ça correspond beaucoup plus à l'identité d'ACDI. Du coup, rock, c'est un peu large, mais oui. Une certaine branche de rock pourrait convenir totalement à l'identité d'ACDI.
C'est vrai que cette part de sélection est toujours super difficile, que ce soit en tant que label ou en tant que maison d'édition. C'est toujours très difficile de sélectionner, en fait. Parce qu'en vrai, je pense, en tout cas pour ma part, c'est juste j'écoute un morceau, si j'aime bien, j'aime bien. Je veux dire, que ce soit n'importe quel style... Et ça pourrait être du rock, ça pourrait être n'importe quoi.
J'ai dit rock.
Mais bien sûr. Mais je comprends l'idée de se borner à des styles. Donc c'est vrai qu'il y a des styles qui nous attirent moins que d'autres. Mais je pense que ça dépend juste du morceau, ça dépend juste du moment.
Et de rencontres.
Ouais, exactement.
Ça donne toujours lieu à une session d'écoute et on est tous là autour d'une table à se dire oui, non, et ça fait des débats sans fin. Donc.
Ouais, complètement.
C'est aussi bien pour ça.
Je pense qu'il y a beaucoup de ressentis et c'est ça qui est bien dans la musique en fait. C'est que c'est vraiment beaucoup d'émotions en fait.
Vous avez commencé un peu à répondre à cette question, mais comment vous envisagez, quelle suite vous envisagez pour vos structures? Est-ce que vous voulez que ça grossisse? Même si, bon, ça c'est une envie dans l'absolu, c'est pas simplement une question de volonté de faire grandir un label par exemple ou une maison d'édition. Ou est-ce que vous avez déjà l'impression d'avoir trouvé une forme d'équilibre financier entre le temps, l'énergie passée
Où vous voyez-vous dans 5 ans
Voilà, c'est ça.
Le stress, merci.
Je sais pas si tu veux commencer, Yann.
Mais Yann, si tu veux.
Eh bien, moi, je crois que je n'ai pas envie de grandir. En tout cas, avec le projet Manufacture Errata, je pense que ça va comme ça. Enfin, c'est bien, quoi. C'est un bon équilibre. Mais par contre, après, les collaborations... c'est ça qui fait grandir les trucs. J'ai l'impression, de mon avis et de ce que j'ai pu voir, qu'il y a beaucoup de micro-structures comme ça qui fonctionnent avec des petites productions et des petites mains et tout, et puis qui s'allient régulièrement et qui sont, c'est plein de micro-structures qui s'allient, qui font des plus grosses structures et qui vont faire un festival, qui vont faire un événement à un moment donné qui est énorme, et puis qui vont redevenir des petites structures comme ça. Je trouve ça assez cool en fait que. Enfin, finalement de pas s'imaginer grandir en fait parce que grandir ça veut dire aussi peut-être potentiellement perdre des trucs au passage, perdre de la rapidité
de
ou quoi, ou je sais pas.
Oui.
Ouais, et en fait être une microstructure
c'est
et puis s'allier à des gens, d'autres microstructures, ouais, c'est assez cool. Enfin personnellement j'aime bien comme ça.
Ouais, pour rester dit, pendant un certain temps, on avait vraiment une diffusion. Enfin, on avait la volonté de garder une diffusion assez, on va dire, familiale, quoi, de main à la main. Ça fait depuis peu qu'on s'est mis un peu sur les réseaux, qu'on communique un peu plus. Donc, il y a quand même cette volonté de grandir, mais tout en restant quand même maître de A à Z de la production au choix et de faire ça toujours avec plaisir et prendre son temps. Parce que dans tous les cas, ça reste quand même pour nous un loisir. Je pense que pour l'instant, on n'envisage pas du tout de vivre de ça. Et par exemple, pour un exemple de ça, c'est que pour notre revue de poésie amateur approche, on avait fait des appels à projets, des affiches. Mais finalement, très vite, on s'est rendu compte qu'on préférait en fait que ça soit des potes de potes de potes qui nous envoient des poèmes et que ça agrandisse. Parce qu'il y avait quelque chose, on rencontrait des gens, on discutait. Il se passait quelque chose et puis voilà, ça nous faisait tout un réseau d'amis dans le milieu de l'art et de la littérature. Du coup, on est entre deux eaux, il y a une tension qui se crée entre les deux, mais je pense que c'est pas incompatible.
Ouais.
Et même, je pense que si on parle juste d'évolution, c'est juste aussi genre avoir de rencontrer des nouvelles personnes, pouvoir, que ce soit dans le label ou même juste dans le côté publication, éditer des nouvelles personnes, travailler, faire vraiment des partenariats avec d'autres gens, d'autres artistes, d'autres écrivains et d'autres musiciens. Je pense que c'est le plus important et c'est ça qui va faire grandir en fait AC1058.
D'accord, ouais. Et au niveau de là par exemple, la fréquence de sortie pour chacun, c'est de l'ordre de quoi?
Très irrégulier personnellement, oui. J'ai sorti 3 cassettes là. Enfin, ce mois-ci, j'aurais sorti 3 cassettes.
Ah oui, quand même.
Mais parce qu'en fait, j'ai eu un problème de livraison. du coup, je pouvais pas les sortir avant. Et du coup, j'en ai plein à sortir d'un coup. Il fallait que je les sorte avant l'été. Parce que j'ai des gens qui poirotent derrière, qui voulaient leurs cassettes. Donc voilà, personnellement, c'est un peu irrégulier.
Ouais, nous aussi, par la force des choses, parce que juste en termes de moyens de production, on est obligé d'être... ça nous oblige à être irrégulier, en fait.
Mais on essaye d'être régulier. Hein, mais
ouais, on essaye.
Mais c'est vrai que parfois, on se retrouve tous à finir tous nos projets fin mai, début juin. Et puis on sort tout, début septembre, quoi, à la rentrée. Donc du coup, on a tout sorti. C'est un truc qui s'enchaîne, quoi, c'est un souffle sans fin. Et je pense que ça dépend des tailles des projets, mais ouais. On ne calcule pas trop ça. On essaie juste pour la communication, pas qu'il y ait un embouteillage. Et si on arrive à réguler ça, ça serait bien. Mais en même temps, on a aussi l'excitation de sortir un truc qu'on a mis genre du temps à produire c'est les embêtants de chacun. Sam, il habitait à Amsterdam, donc il faut qu'il revienne à Paris. Ouais. Il y a vraiment aussi toute une organisation. Donc je pense qu'on essaie de pas trop se prendre la tête, juste de pas voilà, créer 10 sorties ouais, c'est ça. À la suite. Quoi.
Ouais. Enfin, là, par exemple, on a genre 5 ou 6 projets en stock et on peut juste pas les sortir parce que pour l'instant, les moyens de production ont fait qu'on pouvait pas. Quoi. Mais...
D'accord, ouais. Mais oui, bon. Comme tu dis, aussi en fonction des rencontres, vous avez peut-être tombé sur un groupe aussi. Que vous voulez sortir dans
le
mois suivant.
Ouais. Puis il y a la productivité, il y en a qui vont plus rapidement, il y a des projets qui se font plus rapidement que d'autres, enfin, ça dépend vraiment en fait.
Ouais, bien sûr.
Il y a juste notre vue approche qui ça a pas de, ça a pas de fréquence, mais on peut à peu près dire au bout de 2 ans que ça fait, il y en a un par saison, un par trimestre qui sort.
Voilà.
D'accord. Oui, c'est un bon rythme. Et j'ai encore une question pour toi, Yann. Sur ton stand, j'ai trouvé le fanzine Fond de Caisse, qui est un très beau fanzine musical. Et je me demandais si c'était un moyen de soutenir des artistes que tu n'avais pas forcément le temps ou l'argent de sortir par ailleurs
Disons que Fond de Caisse, pour le coup, c'est vraiment né d'une alliance entre plusieurs personnes. Moi je coproduis avec Manufacture Errata une partie des frais en fait. Je participe aussi au fanzine parce que je suis graphiste en fait. Mais les gens qui sont à la base de cette idée de fanzine, c'est des copains à moi qui. C'est Amédée Desmourcia, Romain De Ferron et Antoine Aubert, qui sont des personnes qui ont tous des projets musicaux et pas tellement de projets éditorial, pas de livres et pas de maison d'édition, disons. Enfin presque. Et c'est une collaboration qui est née plutôt du côté de Amédée et Romain, qui avaient vraiment envie de retrouver l'esprit fanzine, fanzine musical à l'ancienne, quoi, qui se fait plus trop, quoi. En fait, j'en ai vu pas mal sur les stands ce week-end, mais c'est quand même des choses qui se font assez rares, à part peut-être dans le milieu punk, mais ça reste du coup très très punk, quoi. En termes de chronique. Et je peux pas dire que c'est une volonté de ma part de dire ce que tu as dit, de mettre en avant des groupes que je pouvais pas sortir, puisque moi je suis pas dans le comité de rédaction, je suis vraiment que graphiste et producteur financier.
D'accord. Ouais.
Et du coup je suis trop content parce que justement j'ai pas apporté de fonds et je fais juste un travail, le dernier travail et aussi de l'impression et tout. Et c'est super, je manie de la matière un peu, mais je j'aborde pas vraiment du contenu, quoi.
Ouais.
Je crois que Manon, toi aussi, tu fais un fanzine un peu comme ça.
Ah oui, c'est ça qui a inspiré ma question. J'ai créé un fanzine qui s'appelle Ductus Pop, qui sort de façon un peu irrégulière aussi. C'est juste un A3 plié. Et ça me permet d'interviewer des groupes. Et parfois, ces rencontres-là font que ce groupe se retrouve sur mon label. Il y a vraiment une... C'est comme une extension du
Bien
label,
sûr.
Même si en fait c'est arrivé avant le label. En tout cas, c'est vraiment lié. Et je sais que des fois, je peux chroniquer un groupe. J'ai pas le temps forcément de proposer une sortie cassette à ce groupe-là, mais un petit article, c'est quand même c'est toujours un peu de visibilité.
Bah oui, c'est carrément logique. C'est carrément logique. Et ça a du sens.
Et je crois qu'à CD58, vous avez aussi une énième activité, c'est d'animer un ciné-club. Si vous voulez nous dire quelques mots à ce sujet, c'est quand même assez intéressant.
On fait un ciné-club privé, c'est-à-dire sur invitation.
Ne venez pas.
dans des lieux différents qui changent assez souvent. Et c'est l'occasion, c'était l'occasion avant d'avoir une table où on mettait nos éditions et qu'on les proposait à des amis, amis d'amis. Et voilà, donc il y avait une projection, on vendait parfois, tout le monde a ramené des gens, et c'est là on a fait des super rencontres, on a rencontré des musiciens, des circassiens, on a rencontré vraiment de tout. Et ça permet aussi de faire grandir et des gens avec qui on a fait des projets, puis pour la revue Approche, c'était parfait aussi de pouvoir dire « Ah, t'écris toi aussi ?»« Ouais, j'écris vite fait dans un bloc-notes, envoie-nous. » Et voilà, ça donne lieu à des bonnes soirées après, où on fait des petits apéros. C'est cool pour la visibilité aussi.
Oui, c'est une manière de diffuser là vos productions. Vous les amenez, vos éditions.
En plus de notre grosse... on a un gros intérêt pour le cinéma. Et du coup, on était aussi contents de passer des films que les gens n'iraient pas forcément voir. On a fait un cycle sur la campagne, un cycle sur le suicide et Donc voilà, c'est des films qui sont pas forcément très avenants et du coup en faisant des petites brochures, des présentations, ça fait le lien quoi, ça fait la médiation.
En fait, je pense que c'était aussi une manière de toucher quelque chose qui nous passionne et qui nous touche énormément et qu'on peut pas forcément faire, c'est-à-dire faire du cinéma ou même par exemple faire juste des publications sur je pense qu'on n'a pas forcément le temps ou des choses comme ça, et du coup de pouvoir faire un ciné-club, ça nous permettait aussi encore une fois de travailler avec des médiums qui nous plaisent, et parce qu'on écrit aussi des articles pour ce ciné-club, il y a des productions visuelles qui sont faites pour
les affiches
et,
notamment
ouais, complètement ouais. Des affiches aussi et même la façon de sélectionner ces films, et du coup j'avoue que le thème sur le suicide par exemple, c'est pas un thème très gay et on peut pas forcément comprendre à première vue de pourquoi, mais c'est aussi parce que on regarde un film, on en regarde un deuxième et on se rend compte qu'il y a des liens et on voit beaucoup aujourd'hui à Paris des cycles qui sont faits en fonction de réalisateurs ou en fonction d'années particulières, des choses très factuelles, et nous on essaye encore une fois de se dire on va faire un cycle sur quelque chose qui est plus un thème global ou des mots abstraits.
Et offrir un regard sur ce thème traité dans trois films et au cinéma.
C'est ça en fait. Et du coup le dernier qui est sur la ville nouvelle par exemple, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est encore une phase d'ACD 58 qui...
Oui, vous avez vraiment plusieurs activités en même temps. C'est vraiment complet. Et là, donc, c'était votre première participation à un festival,
ouais,
si j'ai bien compris.
C'est notre premier festival.
Alors, ça vous donne envie de...
Complètement, ouais. C'était déjà merci de l'invitation. Et,
merci d'être venu.
Et c'est vraiment super. C'est une super ambiance. On a rencontré plein de gens. Yann, notamment, aussi, c'est hyper cool.
Ouais, Yann.
Ouais, et franchement.
Big up. Big up, Yann.
aussi, du coup, là, on commence la tournée des festivals, hein, carrément. La semaine prochaine, on est à Grenoble.
Ah oui.
Et
comment il s'appelle déjà le festival ?
Oh là là, là tu poses des questions pièges.
C'est parce qu'il a un nom assez long. Assez piège. Je crois que c'est le festival micro-édition. Donc,
ah oui, d'accord.
Ah oui. Bon, bah,
salon voilà. Micro-édition. Donc, c'est
Zine
pour ça, en
fait. Zine, un truc comme
ouais,
ça aussi.
Et sinon, on est aussi au Fanzine Festival à Paris, donc le week-end du 21 juin, je crois.
Ouais. Ouais,
c'est ça, 22-21.
Ah ouais, moi je serai où déjà ? À Fanzine Fest à Bordeaux aussi.
D'accord, c'est quand ça ?
En juillet.
Juillet.
Ah ouais, tant qu'à faire.
On viendra squatter ta table.
Invite.
Ouais, bah venez. Ouais. Hein. C'est en juillet, c'est la première semaine de juillet.
Bah parfait.
On est là.
En plus, tous les Bordelais sont à la plage, alors il y a vraiment la place.
Ah, mon père, il est originaire de Bordeaux, donc j'ai envie de revenir.
Bah, pendant qu'il est à la plage, je peux dormir chez lui peut-être.
Bah ouais.
Je peux dormir chez lui, moi aussi peut-être.
Bah ouais, bien sûr.
Ok, cool.
Bah ouais.
Rendez-vous est pris, donc une manière de rentrer un peu plus dans la folle vie rock'n'roll de l'éditeur de fanzine, de cassettes, de micro-éditions dans tous les sens. Merci à tous les quatre.
Merci beaucoup.
On peut encore vous retrouver sur vos stands respectifs pour encore une paire d'heures, et puis ce sera la fin de ce Bandit Festival première édition. On était ravis de vous accueillir tous. On invite évidemment tout le monde à écouter les émissions qui ont été enregistrées sur ces deux jours sur Onde Courte, la web radio du Libre. Et puis rendez-vous l'an prochain pour le Bandit Festival numéro 2.
Merci beaucoup.
Et merci. Salut. À Onde Courte.
Hasta luego.
Merci.
Au revoir.
Bye bye.